Les cours du Collège de France, François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit.
Dans les deux précédentes séances, j'ai parlé des idées de Brentano concernant la structure du jugement, la structure de la proposition, et en particulier de sa réinterprétation des propositions dites catégoriques de la syllogistique aristotélicienne, propositions où on trouve toujours un sujet et un prédicat, donc homme, mortel. Selon Aristote, pour qu'on ait jugement, il faut qu'il y ait un acte de l'esprit qui unisse deux termes ou qui les sépare dans la négation. Donc ça donne lieu à des propositions affirmatives ou négatives, selon que l'acte de l'esprit est positif ou négatif, et est un acte d'unification ou de séparation. Et d'autre part, on a aussi ces différences entre les différences dites de quantité, selon que le premier terme est pris dans toute son extension, comme quand je dis tout homme est mortel, je parle de la totalité des hommes. Si je dis certains hommes sont mortels, je parle seulement d'une partie. Donc ça, c'est des différences de quantité, plus la différence de qualité, positif ou négatif, suivant que c'est une affirmation ou une négation, et ça nous donne une classe de propositions. Et je vous ai dit que, pour Brentano, toutes ces propositions se ramènent en fait à des propositions existentielles qui affirment l'existence de quelque chose ou qui nient l'existence de quelque chose. Donc on garde l'idée de cette double polarité, le positif et le négatif. Mais il s'agit toujours d'une affirmation, de l'affirmation d'une existence ou de la négation d'une existence. Donc si une affirmation, une universelle affirmative comme tout homme est mortel, pour Brentano, c'est la même chose qu'une proposition existentielle négative. Ça revient à rejeter l'existence d'un homme immortel. Alors qu'une proposition particulière, comme certains hommes sont méchants, revient à accepter l'existence d'un homme méchant, ou d'homme méchant, en mettant en pluriel si on veut. Donc il y a toujours cette structure. Pour Brentano, en fait, l'acte de l'esprit, quand il juge, c'est l'acte de poser quelque chose comme existant, d'accepter la réalité de quelque chose ou de la refuser. C'est pourquoi on peut parler d'acte thétique ou de jugement thétique, de jugement qui pose. Même si, comme je vous l'avais dit, au départ, Brentano employait cette expression jugement thétique pour un type particulier de jugement où on a aussi l'acte de l'esprit qui pose ou qui affirme, ou qui, au contraire, qui nie, qui refuse d'affirmer, ou qui... Le contenu de l'acte, en revanche, est simple au lieu d'être complexe, au lieu qu'il y ait cette dualité sujet-prédicat dont Aristote dit qu'elle est nécessaire pour qu'on ait jugement, pour qu'on ait quelque chose de vrai ou faux. Brentano soutient que ça n'est pas nécessaire puisqu'on a des jugements à un seul terme, comme il fait jour, il pleut, il tonne, il neige, tous les jugements météorologiques, ou aussi bien des jugements existentiels dont le contenu serait simple, comme il y a du bruit, qui pose qu'il y a du bruit, mais il n'y a pas un sujet et un prédicat ici. Pareillement, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Pour Brentano, ce sont des jugements thétiques simples avec un contenu à un seul terme. Mais en tout cas, que ce soit ces jugements thétiques à un seul terme ou les jugements dans la traduction brentanienne des propositions aristotéliciennes, dans tous les cas, ce sont des jugements existentiels. On a donc une structure qui, à ce stade-là, semble être la structure universelle de jugement, mais qui est une sorte d'alternative à l'idée que la structure universelle du jugement serait la structure sujet-prédicat, idée qu'il semble y avoir dans la théorie à laquelle Brentano s'oppose. Lui, il soutient que tout jugement est à ce stade-là, parce qu'encore une fois, sa théorie évolue, comme j'ai dit la dernière fois, mais à ce stade-là, il dit que tout jugement est l'affirmation ou la négation de quelque chose, c'est le X que vous voyez en haut, et le X peut être simple ou complexe, il est complexe et il a la forme AB avec sujet-prédicat, dans les cas que j'ai d'abord discuté en reprenant les exemples d'Aristote. Certains champignons sont vénéneux, nous dit que des champignons vénéneux, ça existe. Donc c'est un acte d'affirmation visant un contenu complexe où il y a à la fois champignons et la propriété d'être vénéneux. Donc on a composé ces deux choses, et c'est l'état de choses complexe qui en résulte, que l'esprit affirme, dont il affirme la réalité. Il n'y a pas d'amour heureux, c'est là l'esprit qui rejette l'existence de cet état de choses complexe où on a un amour heureux. Mais on peut aussi avoir l'acte de l'esprit qui affirme ou qui nie, et qui vise l'existence d'une chose simple et pas d'une chose complexe, comme Dieu ou la pluie. Donc il pleut, ça dit juste « il y a de la pluie ». Donc l'esprit affirme l'existence de la pluie. Quelque chose comme ça. Enfin, on verra plus loin que ce n'est pas exactement l'existence de la pluie, c'est plutôt la pluie ici, maintenant, et j'évoquerai cette question dans un instant. Alors j'ai dit que la théorie de Brentano évoluait, parce qu'il y a une deuxième... En fait, la dernière fois, j'ai parlé de ces deux théories en réfléchissant à la façon dont j'ai présenté les choses. Je pense que ça aurait été plus clair si j'avais distingué trois phases, mais tant pis, c'est trop tard pour refaire la présentation de la dernière fois. Donc, l'élément nouveau qui intervient, c'est cette idée qui caractérise la théorie que j'appelle la théorie de Brentano-Marty, parce que l'élève Anton Marty, élève de Brentano, a beaucoup fait pour développer ces idées-là. C'est l'idée qu'il y a une autre forme de jugement distincte des jugements dont j'ai parlé, dont je viens de parler, les jugements qui simplement affirment ou nient l'existence de quelque chose. Et ce sont les jugements que Brentano et Marty appellent maintenant catégoriques, parce qu'ils réinterprètent cette notion, mais ils ont un terme spécifique pour ça, ils appellent ça les jugements doubles. L'idée étant, comme je l'ai dit la dernière fois, que tous les jugements dont j'ai parlé sont des jugements simples, même si leur contenu est complexe, comme dans le cas où le contenu c'est « il n'y a pas d'amour heureux », vous niez l'existence de quelque chose de complexe, c'est un amour ayant la propriété d'être heureux. Mais l'acte de l'esprit est simple parce que c'est simplement l'acte de poser quelque chose ou d'affirmer une réalité, ou de refuser ou de rejeter cette réalité au lieu de l'accepter. Donc l'acte de l'esprit est simple, et dans un jugement double, l'acte de l'esprit est double, il y a deux jugements dont l'un est greffé sur l'autre. Il y a un premier jugement qui pose l'existence de quelque chose, et ce jugement-là, il a déjà eu lieu. C'est quelque chose qui appartient à l'arrière-plan, qui est présupposé, déjà acquis. Il est déjà acquis, mais le deuxième jugement, on en a besoin du premier, parce que le deuxième jugement est greffé sur lui, il le présuppose. Et ce deuxième jugement consiste à attribuer à cet objet dont on a déjà accepté l'existence ou la réalité, on lui attribue à cet objet une certaine propriété. Et cette structure que vous voyez là, la structure, non pas simplement en haut, un chat miaule dans le jardin, il n'y a pas d'amour heureux, certains champignons sont vénéneux, c'est l'esprit qui simplement pose la réalité d'un état de choses complexe avec un chat qui miaule, par exemple. Et la structure, donc AB, c'est sujet prédicat, c'est cette structure complexe du contenu, et c'est le contenu de jugement, plus moins, c'est l'affirmation ou la négation. Avec les jugements doubles, la structure plus complexe que vous voyez en bas, il y a ce jugement AB plus moins, disons, le même en quelque sorte. Mais là, il est greffé sur un jugement antécédent qui affirmait l'existence de A. Donc l'existence de A était déjà donnée, c'était quelque chose qui était déjà accepté. Et ce que fait le nouveau jugement qui se greffe sur lui, c'est simplement d'attribuer à cet objet déjà connu, déjà accepté, qui fait déjà partie de l'ontologie en quelque sorte, attribuer à cet objet une propriété, ou lui refuser cette propriété. Donc le contenu du second jugement, c'est simplement la prédication, l'attribution d'une propriété. Ce n'est pas l'existence de l'objet, car l'existence de l'objet, c'est quelque chose qui est déjà donné, déjà accepté. Contrairement à ce qui se passe dans les énoncés en haut, où là, l'existence de l'objet fait partie de ce qu'affirme l'énoncé. Les exemples que je vous ai donnés de jugement double, j'en fais un usage légèrement différent de Brentano et Marty, parce qu'eux-mêmes parlent de ce type de cas, qui sont peut-être les cas paradigmatiques pour les jugements doubles. Ils essaient d'étendre la catégorie, et moi je considère que c'est intéressant d'avoir cette catégorie, pour précisément arriver à comprendre ce type d'énoncé, ce type de proposition, dont j'ai donné ici deux exemples, ce nuage à la forme d'une guitare, le chat miaule dans le jardin. Et vous voyez le contraste entre le chat miaule dans le jardin ici, qui est un jugement double, où il y a un certain chat qu'on connaît déjà, dont nous sommes familiers, dont l'existence est présupposée, et le jugement lui attribue une propriété de miauler dans le jardin. Alors que dans l'énoncé qu'on a en haut, un chat miaule dans le jardin, ben on attribue aussi la propriété de miauler dans le jardin à un chat, mais ce n'est pas un chat qu'on connaît déjà et dont l'existence a déjà été acceptée. On la pose, cette existence. On dit qu'il y a un chat. Et donc l'existence ici, elle est affirmée, elle n'est pas présupposée. Et la différence tient essentiellement à la forme linguistique. Le chat comporte un élément défini, et les éléments définis présupposent l'existence de ce dont on parle, présupposent l'existence du chat. Donc, comme je l'ai dit, il faut que l'auditeur à qui on s'adresse, quand on emploie le défini, ait déjà un dossier mental sur le chat en question. Il faut qu'il connaisse le chat pour qu'on puisse dire « le chat miaule dans le jardin ». Sinon, il faudrait lui dire « un chat miaule dans le jardin » s'il ne le connaît pas. Et quand on dit « un chat miaule dans le jardin », on introduit ce chat dans l'univers mental de l'auditeur, alors que quand on dit « le chat miaule dans le jardin », le chat, il est déjà là dans l'univers mental de l'auditeur et on se contente de l'invoquer. Ces idées donc, qu'on trouve chez Brentano et Marty, l'idée de ces jugements doux par opposition au jugement simple, c'est intéressant notamment parce que ce sont à la fois des idées qui, comme je l'ai dit, permettent de donner un statut à part aux propositions singulières, comme on dit, par opposition aux propositions générales, qui sont les seules qui apparaissent dans le tableau aristotélicien que j'ai présenté. Certains hommes sont mortels, tous les hommes sont mortels, ça nous parle en général des hommes, mais ça ne nous parle pas de tel ou tel individu. Une proposition singulière comme Aristote est mortel nous parle d'un individu particulier. Et il y a eu une énorme littérature, comme je vous ai dit, récente surtout, mais ça commence enfin, au XXe siècle, il y a un profond intérêt pour ces questions, pour la question de savoir comment on va caractériser les propositions singulières et surtout les pensées singulières. Quand on pense à un objet particulier et qu'on lui attribue une propriété, qu'est-ce qui se passe? Et selon des auteurs, comme un grand nombre d'auteurs contemporains, mais je pense que le père fondateur un peu de ces recherches, il y aurait Bertrand Russell, aurait aussi vocation à être mentionné comme père fondateur, mais Peter Strawson est vraiment un des théoriciens de la pensée singulière. Et lui-même, il dit un certain nombre de choses qui convergent de façon vraiment frappante avec ce que disent Brentano, ou ce que disent Brentano et Marty. En particulier, il a ce contraste entre des énoncés qui sont vraiment sujets prédicats, comme ce nuage à la forme d'une guitare, un énoncé, une proposition singulière à propos d'un objet particulier auquel on attribue une propriété. Donc dans ce type d'énoncé, on a un acte de référence identifiante à quelque chose, en l'occurrence le nuage, et puis on a un acte de prédication où on attribue une propriété ou quelque chose. Et c'est ça qui intéresse Strawson, c'est ce que c'est exactement que ce type de pensée singulière où on a ces deux actes réunis et complémentaires. Et ce qu'il dit, exactement comme Brentano, c'est qu'il y a des jugements qui n'ont pas cette structure double sujet-prédicat et où il n'y a pas de référence du tout et qui sont quand même des jugements vrais ou faux. Et c'est le jugement dont je vous ai parlé qui font du feature placing, comme il dit. Ça correspond au jugement thétique à un terme de Brentano et ce sont les mêmes exemples. Ce sont les exemples d'énoncés météorologiques, de propositions existentielles, etc. Par exemple, il y a un nuage là-bas, ce serait un tel jugement où vous repérez dans l'environnement une certaine propriété, disons la nébulosité qui est instanciée. Donc Brentano nous dit qu'il y a ces deux sortes de jugements, mais surtout il nous dit que les jugements singuliers ou les jugements de type ce nuage à la forme d'une guitare, ces jugements-là présupposent un corps d'informations déjà disponible sur l'objet dont on parle, corps d'information qu'il s'agit d'invoquer ou d'activer pour lui attribuer une propriété nouvelle, en quelque sorte. Mais il nous dit aussi que ce qui est présupposé, ce corps de connaissance, de façon minimale, ça doit inclure un jugement thétique comme « il y a un nuage là-bas ». Si vous ne croyez pas quelque chose comme « il y a un nuage là-bas », vous ne pouvez pas dire « ce nuage », vous ne pouvez pas penser à ce nuage. Il faut accepter l'idée qu'il y en a un là-bas pour arriver à le désigner, à focaliser votre attention sur lui. Enfin, je ne veux pas revenir ici sur les idées de Strawson. Le point important, simplement, c'est cette convergence, à la fois à travers les exemples, mais aussi à travers le bagage théorique. Cette idée de présupposition, dont j'ai dit qu'elle est, pour Strawson, indissociable de cette idée de référence identifiante. L'idée de présupposition va de pair avec l'idée de jugement double, où il y a, dans le jugement double, deux jugements, l'un qui est déjà donné, qui est dans l'arrière-plan, sur lequel l'autre est greffé. L'idée de présupposition peut servir ici même si je vais introduire d'autres idées de la littérature pour développer un peu cette image du jugement double. En tout cas, dans la théorie de Brentano, pour résumer, une fois qu'on a introduit cette nouvelle catégorie de jugement que sont les jugements doubles, on voit qu'on a en fait six types de jugements. On a des jugements thétiques qui peuvent être simples ou complexes. Les jugements thétiques simples posent l'existence de quelque chose, ça peut être Dieu, ça peut être un nuage, ça peut être la pluie, etc. Mais on peut aussi poser l'existence d'états de choses complexes impliquant un sujet, un prédicat, comme certains champignons sont mortels, il n'y a pas d'amour heureux. Donc là, la structure, c'est AB plus ou AB moins. La structure pour les jugements simples, c'était A plus ou A moins. Et les jugements doubles, que Brentano et Marty appellent jugements catégoriques, pour les distinguer des jugements thétiques, qui sont tous ceux qui sont d'une seule pièce et qui affirment l'existence de quelque chose. Les jugements doubles, eux, ont cette structure plus complexe où on a l'élément présupposé ou déjà donné, A+, une existence déjà affirmée et acceptée, et un jugement qui se greffe là-dessus pour attribuer une propriété à l'objet en question. Et donc ce sont les jugements singuliers comme ce nuage à la forme d'une guitare qui sont le paradigme. Donc ça, c'est un rappel de ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Et alors aujourd'hui, je voudrais aller un petit peu plus loin dans la discussion de ces idées et poser quelques problèmes qui vont montrer qu'on a besoin, pour arriver à comprendre mieux ce qui se passe, d'introduire une dimension nouvelle par rapport au... Quand on parle de structure du jugement, il y a toute une dimension nouvelle qui doit intervenir. Et d'abord, pourquoi faire intervenir quelque chose en plus ? Parce qu'on a des difficultés avec l'appareil théorique que je vous ai présenté. Et là, je voudrais présenter une difficulté qui me paraît assez simple. J'espère qu'elle vous apparaîtra comme elle m'apparaît à moi, la difficulté. Si vous avez un énoncé comme « il y a Marcel qui nous fait des signes ». Donc on est en train de discuter, on dit « ah tiens, il y a Marcel qui nous fait des signes ». Donc vous voyez bien la situation. Mais quel type de jugement c'est dans la théorie que j'ai présentée, la théorie de Brentano, Marty, Strawson, disons, comme on pourrait l'appeler. Tiens, j'aurais pu inventer la théorie BMS. Quelle est la structure ? Est-ce que c'est la structure AB+, ou est-ce que c'est la structure du jugement double ? On est tiré dans deux directions. Là, il y a une sorte de contradiction. On rencontre une contradiction quand on essaie de répondre à cette question. La contradiction vient du fait que là, il y a un nom propre, Marcel. Un nom propre, j'ai dit, possède le trait défini, comme le chat, c'est défini, un pronom il est venu, c'est défini, le démonstratif, ce nuage, c'est défini, les noms propres, c'est défini. Dire que c'est défini, ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas employer un nom propre en vous adressant à quelqu'un si la personne ne sait pas déjà qui c'est ou ne sait pas déjà qu'il y a quelqu'un qui porte ce nom, si ce n'est pas du tout familier, si la personne n'a jamais entendu parler de la personne, c'est incorrect de commencer à employer le nom propre pour parler de cette personne. Il faut, au lieu de dire, si vous n'avez jamais entendu parler de Marcel, vous ne savez pas qui est Marcel, je ne vais pas vous dire, tiens, il y a Marcel qui ? Non, vous ne savez pas qui c'est. Je vais vous dire, il y a un nommé Marcel ou un ami à moi nommé Marcel ou quelque chose comme ça. Je l'introduis d'abord dans votre esprit. Ensuite, je peux employer le mot Marcel. Mais je ne peux pas employer de but en blanc le nom propre parce que le nom propre possède ce trait défini qui implique qu'il y ait tout un savoir antécédent, éventuellement minimal, mais il doit y avoir un savoir antécédent, des choses déjà connues. Donc là, on a ce nom propre Marcel. Et jusqu'à présent, je vous ai dit que le jugement double, c'est justement le cas où il y a une existence qui est présupposée, par exemple présupposée par le fait qu'on emploie le défini, et que, donc il y a ce jugement présupposé d'existence concernant la personne en question qui est censée être familière de mon interlocuteur, et je greffe sur ce jugement présupposé d'existence un jugement qui attribue à cet individu la propriété d'être en train de nous faire des signes. Et donc là, on est dans ce cas de figure parce qu'on a l'emploi du nom propre, du défini, ça présuppose l'existence, ça présuppose que mon interlocuteur sait qui c'est, a une idée de qui c'est, il est déjà familier, c'est pas un nom qui est nouveau pour lui, etc. Et ça, ça va dans le sens du fait que ce serait un jugement double. Mais d'un autre côté, vous voyez bien que ce jugement commence par « il y a ». C'est une proposition existentielle. Ça pose l'existence de quelque chose. Et quel est le quelque chose? C'est Marcel qui nous fait des signes, c'est cette espèce d'état de choses complexe. Et ça ressemble à un énoncé thétique qui pose l'existence d'un état de choses complexe. Marcel nous faisant des signes. Donc on a un peu des deux, et donc du coup, ça pose un problème. Je dois dire que ce problème se pose en français, je suppose que dans toutes les langues on peut trouver des problèmes analogues, mais je voulais signaler que en anglais, il y a cette thèse très connue de Mill Sartre sur les phrases existentielles qui date de ces années où étaient introduites dans la littérature linguistique les idées de Marty à travers le travail de Turoda. J'y reviendrai, c'était dans les années 70. Dans ces mêmes années, il y avait un intérêt pour les mêmes choses, en fait, dont parle Brentano et Marty, mais en particulier les phrases existentielles. Et Mill Sartre fait remarquer dans la thèse que vous ne pouvez pas, avec une phrase commençant par « il y a », vous ne pouvez pas mettre le défini. Précisément parce qu'il y a, ça introduit quelque chose de nouveau, disons, dans l'univers mental, et le défini présuppose que la chose est déjà donnée, donc il y a une sorte de conflit entre les deux. Enfin, ce que je vous dis là, c'est de l'eau, c'est pas du tout ce que dit Mill Sartre. Moi, je vous présente les choses comme ça. Il y a un conflit entre ces deux idées, et ce conflit, c'est assez heureux qu'en anglais, apparemment, vous pouvez dire « il y a un oiseau dans la cage », très bien, là, avec l'indéfini, mais vous ne pouvez pas dire « il y a l'oiseau dans la cage », avec le défini. C'est pour ça qu'il y a cet astérisque, les linguistes utilisent ça pour dire que c'est incorrect, que c'est pas acceptable. Je ne sais pas si en anglais on peut dire il y a Marcel, mais bon. En tout cas, en français, je pense que c'est un peu différent parce que moi, il y a l'oiseau dans la cage, c'est certes pas aussi bon, peut-être qu'il y a un oiseau dans la cage, mais ça ne me choque pas. Il y a le chat sur le canapé. Je ne pense pas que ça pose de problème. En tout cas, on a l'exemple de « il y a Marcel qui nous fait des signes ». Il n'y a aucun doute que cet énoncé est parfaitement valable. Et c'est de lui que je parlais en disant qu'on a un petit problème. Et qu'il faut essayer d'avancer un peu dans la caractérisation des phénomènes pour ne pas avoir cette incertitude quand on a des énoncés de ce genre. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est d'une notion qui a été beaucoup discutée dans ces mêmes années où étaient introduites dans la littérature linguistique les idées de Marty à travers donc Turoda. C'est des années où on discutait aussi beaucoup de la notion de présupposition qui commençait à être utilisée par les linguistes. Elle avait été introduite auparavant par les philosophes, notamment par Strawson dans ses travaux du milieu du siècle dont j'ai parlé, mais les linguistes ont commencé à s'en emparer. Et parmi les questions, je n'avais pas vu que la diapo était passée, excusez-moi, mais c'est très bien parce que j'en ai besoin maintenant. Parmi les questions qui étaient aussi discutées, il y avait l'idée que, bon, on a le contenu des énoncés, c'est une chose, mais on a aussi la façon dont l'esprit traite l'information que véhicule un énoncé. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, je vous ai mis trois versions du même énoncé avec le même contenu, donc un énoncé qui dit que Jean a cassé la machine à laver, mais avec la prosodie, avec l'accent, en disant « Jean a cassé la machine à laver ». Si je dis ça, c'est comme si je disais « c'est Jean qui a cassé la machine à laver ». Je peux vous dire « Jean a cassé la machine à laver ». Ou je peux vous dire « Jean a cassé la machine à laver ». Et suivant où on met l'accent, l'énoncé répond à des questions différentes. Et il répond à des questions différentes et... ça veut dire qu'on sait déjà certaines choses, et il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, d'autres informations dont on a besoin, et l'énoncé nous fournit une information. La partie en lettres capitales, ici, correspond à cette information nouvelle que nous apporte l'énoncé. Donc, Jean a cassé la machine à laver, la question qui se pose, c'est de savoir qui a cassé la machine à laver. Donc, on sait déjà que la machine à laver est cassée, que quelqu'un a cassé la machine à laver, et l'énoncé nous apporte la réponse à la question de savoir qui c'est. Et donc on voit qu'à l'intérieur de l'énoncé, on a une division entre la partie de l'énoncé qui comporte une information nouvelle et la partie qui rappellent des choses déjà connues. Et on peut faire la même chose en variant l'accent. Jean a cassé la machine à laver. Là, on sait que Jean a fait quelque chose à la machine à laver, on ne sait pas quoi, et on nous dit qu'il l'a cassé. Et pareillement, Jean a cassé la machine à laver, on sait que Jean a cassé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. À chaque fois, vous avez l'information déjà donnée, dans l'arrière-plan, déjà connue, et vous avez l'information nouvelle. Et cette structuration, suivant que l'information est nouvelle ou déjà connue, ça a commencé à beaucoup intéresser non seulement les linguistes, mais aussi les psychologues, parce que dans le traitement, disons, de la parole et du discours, c'est une dimension très importante, et notamment dans le choix de la façon de s'exprimer, le locuteur fait des hypothèses concernant ce que sait déjà la personne à qui il s'adresse, et il donne des indications qui permettent à l'auditeur de savoir quel est cette connaissance antécédente chez lui que l'on sollicite et quelle est l'information nouvelle qu'on lui apporte. Et donc ça, c'est l'idée de structure informationnelle qui est dans mon titre aujourd'hui, c'est l'idée de cette structure, cette répartition à l'intérieur du contenu d'un énoncé, disons, entre ce qui est information nouvelle et ce qui est information ancienne, et entre, comme on dit, le thème, la chose dont on parle, qui est la chose qui est déjà présente à l'esprit, et puis ce qu'on dit de nouveau, le propos, ce qu'on apporte, le thème et le rem, on dit parfois. Ces distinctions-là étaient beaucoup discutées en linguistique, notamment dans les années 60 par l'école de Prague, et donc toutes ces idées-là ont commencé à être beaucoup discutées en linguistique, au même moment où donc Turoda a publié ses articles sur Marty, dont je vous avais dit il y a deux séances, je pense que c'est à l'origine, il y avait un cours sur l'histoire de la linguistique, un séminaire sur l'histoire de la linguistique donné par Chomsky au MIT, et Turoda, qui était son élève, s'est chargé du travail de Marty. Il a étudié Marty de façon assez approfondie, et il a rapporté donc les résultats de ses travaux dans plusieurs articles. Et ça a eu de l'influence sur les linguistes, parce que notamment, il a montré que la distinction entre le jugement catégorique, c'est-à-dire le jugement double et le jugement éthique, avait une pertinence linguistique parce qu'elle permettait de comprendre certains phénomènes, et il a notamment parlé de certains phénomènes de la syntaxe du japonais, notamment le rôle des particules wa et ga en japonais. Donc il a discuté ça en disant que cette notion de ces idées de Marty pouvaient être utilisées dans ce cadre-là. Mais au même moment, il y avait beaucoup de discussions sur la distinction thème-propos, la structure informationnelle, la présupposition et les choses de ce genre. Alors, un article intéressant de cette époque, d'un psychologue, c'est cet article de Peter Hornby, qui introduit une distinction entre trois types de sujets. Il y a le sujet grammatical. Et donc, dans les exemples que j'ai mis là, Jean a poussé Marie, c'est Jean le sujet grammatical. Mais si on met la phrase au passif, Marie a été poussée par Jean, c'est Marie le sujet. Donc ça, c'est la notion de sujet grammatical. Et ce que dit Hornby, c'est que le sujet grammatical, c'est pas la même chose que le sujet logique, comme il dit, ou on pourrait dire logico-sémantique. Et ce qu'il veut dire par là, sans doute, c'est que si vous prenez Jean a poussé Marie et Marie a été poussée par Jean, certes, l'information, on la présente différemment, la perspective est différente, la caméra n'est pas mise au même endroit, quelque chose comme ça, peut-être, mais c'est quand même le même contenu, parce que il y a toujours une action poussée avec deux actants, comme dit Teniers, le grand linguiste français, deux actants, qui est Jean et Marie, qui jouent des rôles, Jean étant l'agent, celui qui accomplit l'action, et Marie étant la patiente, celle qui subit l'action. Et c'est la même chose que ce soit Jean a poussé Marie ou Marie a été poussée par Jean. On peut changer les choses grammaticalement, mais ça n'empêche pas que c'est toujours la même scène. Donc sur le plan logique, c'est toujours le même contenu en un certain sens. Donc il y a ces notions-là de sujet, mais l'article porte sur le sujet psychologique, qui est une chose encore différente. Et le sujet psychologique, dit Hornby, c'est le sujet de la conversation, c'est ce qui nous intéresse, ce dont on est en train de parler ou ce à quoi on est en train de penser. Et le sujet psychologique, la troisième phrase que j'ai mise là, Marie-Jean l'a poussé, mettre Marie en tête ici indique que c'est à elle qu'on s'intéresse, c'est d'elle qu'on parle. Donc on dit la même chose, Jean l'a poussée. Mais c'est elle qui, en l'occurrence, est complément d'objet, si on veut utiliser ces catégories, c'est elle qui est le sujet psychologique. Donc elle est le sujet psychologique, même si elle n'est ni le sujet grammatical, dans cette phrase, ni le sujet logique, puisqu'elle n'est pas l'agent. Et que pour Hornby, quand il parle de sujet logique, il veut dire l'agent. Donc la structure informationnelle, c'est la façon dont se distribue dans un énoncé l'information déjà disponible, déjà présente dans l'univers mental, comme je disais, qui est rappelée ou présupposée par l'énoncé, et l'information nouvelle dont l'énoncé est porteur. Et c'est cette information nouvelle qu'on appelle parfois le propos, par opposition à l'information ancienne qu'on appelle le thème. Dans un cas comme Marie-Jean l'a poussé, Marie clairement indique le thème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'information ancienne, l'information nouvelle? Donc, c'est là que les choses se passent un peu. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Là, j'ai une citation pour montrer que ces considérations sur l'information ancienne, l'information nouvelle, le mouvement de l'esprit qui part de ce qu'il sait déjà pour aller vers ce qui est nouveau, le fait que la phrase doit organiser les choses de façon à rendre cette transition facile. Là, je vous l'ai indiqué, j'ai pris dans ce travail en français de Albert Séchoët, qui est un des éditeurs du cours de Saussure. Vous avez cette phrase très éloquente où il parle de ça, et ça, c'est en 1950. Il dit dans la communication, il y a nécessairement un mouvement de la pensée qui va du terme admis comme base, prédonné ou présupposé, donc ça, c'est l'idée du thème, ce qu'on a à l'esprit, au terme d'aboutissement, le propos, et il dit donc un sujet et un prédicat. Donc il interprète sujet-prédicat dans ces termes psychologiques, alors que Hornby essaie de dire qu'en fait, il y a deux plans différents, il y a le plan grammatical et le plan psychologique. Mais il est vrai que dans beaucoup de cas, beaucoup de gens pensent que la structure grammaticale sujet-prédicat est censée coller à cette structure psychologique. Mais dans beaucoup de cas, elle s'en éloigne. Donc peut-être que c'était un encodage de cette structure psychologique, mais ces deux plans deviennent relativement indépendants l'un de l'autre. Puisqu'on voit beaucoup d'exemples où le thème, ça n'est pas le sujet, mais autre chose. En tout cas, j'étais en train de vous dire que la question de savoir ce que c'est que l'information nouvelle et l'information ancienne se pose. Alors, en 1974, dans un article influent, Haviland et Clark, donc on est encore en psychologie, même si les linguistes s'intéressaient aussi à ces choses, eux définissaient l'information ancienne comme ce que l'auditeur est censé déjà savoir. Censé déjà savoir. Ça ne veut pas dire qu'il le sait réellement, mais ça veut dire que si vous exprimez comme ça, bah vous présupposez chez lui certaines connaissances. Ce qu'il est censé déjà savoir. Et l'information nouvelle, c'est ce qu'il n'est pas censé déjà savoir, ou peut-être mieux, ce qu'il est censé ne pas déjà savoir. Parce que là aussi, vous pouvez, par votre formulation, montrer qu'il n'est pas censé savoir une certaine chose que vous présentez comme de l'information nouvelle. Il peut très bien le savoir, effectivement. Mais l'énoncé lui-même, par la forme, etc., suppose un certain statut de connaissance pour les différents éléments qui se trouvent encodés dans l'énoncé. Donc ça, c'est cette proposition. Et ce à quoi je veux en venir, c'est l'amélioration, à mon avis assez décisive, qui vient avec cet article important de Schaeff, je ne sais pas comment on prononce, en 1976, où il essaie de revenir sur toutes ces notions qui vont un peu dans le même sens, mais qui ne sont pas tout à fait la même. Donc il essaie d'améliorer les choses. Et il dit quelque chose qui est très important par rapport à notre problème, et notamment à l'énoncé dont je vous ai parlé. Il dit que l'information ancienne, qui est censée définir le thème d'un énoncé par opposition au propos, c'est l'information dont le locuteur considère qu'elle est présente à la conscience de l'auditeur au moment de l'énonciation. Alors que l'information nouvelle, le propos, c'est ce que le locuteur introduit dans la conscience de l'auditeur par ce qu'il lui dit. Donc là, on fait appel à la conscience de l'auditeur au moment de l'énonciation, ce qu'il a dans l'esprit au moment où on lui parle. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que l'information ancienne au sens de Haviland et Clark. Puisque il y a des choses que vous pouvez savoir qui sont dans votre univers mental, des choses que vous connaissez, des informations que vous possédez, mais ces informations que vous avez, elles ne sont pas forcées d'être présentes à votre esprit au moment où vous parlez. Peut-être que vous n'êtes pas en train d'y penser. Donc c'est ça qui est important. Et je pense qu'il s'ensuit immédiatement que même si un énoncé a pour sujet grammatical une expression définie, c'est-à-dire une expression qui présuppose chez celui à qui on s'adresse la possession d'un dossier mental antécédent sur l'objet, d'une certaine familiarité avec l'objet, d'un bagage de connaissances sur ce dont on lui parle, même si vous utilisez une expression définie comme ça, ça ne veut pas dire que l'énoncé exprime forcément un jugement double au sens de Brentano et Marty si on interprète maintenant cette notion de jugement double avec cette idée de thème correspondant, comme chez Scheif, à ce qui est présent à l'esprit, dans la conscience de l'auditeur au moment où on lui parle. Parce que certes, une expression définie comme le nom propre Marcel invoque ou présuppose un dossier préexistant sur Marcel, chez l'auditeur, donc ça ne va pas d'employer l'expression Marcel en s'adressant à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de lui, ça ne va pas. Vous supposez que votre interlocuteur sait qui est Marcel, donc vous avez déjà un dossier mental sur Marcel. Mais il est certain qu'un dossier mental sur Marcel peut exister dans l'esprit des interlocuteurs, préalablement à l'énoncé qui porte sur Marcel, sans préexister à l'énoncé en un sens plus fort, c'est-à-dire sans préexister en tant que dossier mental actif ou activé. En d'autres termes, il peut y avoir un dossier mental sur Marcel dans l'esprit de mon interlocuteur, mais ce dossier peut ne pas être actif au sens où l'auditeur est en train de penser à Marcel. Peut-être l'auditeur ne pense absolument pas à Marcel. Donc je dirais, mon dossier mental sur Marcel est actif à partir du moment où je pense à lui. Quand je pense à lui, j'active mon dossier mental sur lui. Et à ce moment-là, si dans une conversation, la conversation porte sur Marcel, les dossiers mentaux respectifs des interlocuteurs sur Marcel se trouvent activés. Et à ce moment-là, Marcel est le thème. Donc le thème, dans l'interprétation de Scheif, correspond non seulement à quelque chose de déjà connu, mais plus spécifiquement à quelque chose de déjà connu qui est présent à l'esprit des interlocuteurs préalablement à l'énoncé. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve présent à l'esprit des interlocuteurs à cause de l'énoncé. C'est déjà là, présent à l'esprit avant l'énoncé. Et l'énoncé ne fait qu'invoquer cette chose. Donc si on revient à l'exemple, on voit que même si mon interlocuteur et moi-même disposons tous deux d'un dossier mental préexistant sur Marcel, encore une fois, c'est une condition d'emploi pour un nom propre. Donc nous connaissons tous les deux Marcel, et même nous le connaissons très bien, c'est notre ami Marcel. Ce dossier sur Marcel peut très bien ne pas être actif dans l'esprit de mon interlocuteur au moment où j'énonce « Marcel nous fait des signes ». Moi, il est actif parce que j'ai vu Marcel, donc ça a activé mon dossier, mais lui, il n'y pense pas, on est en train de discuter de toute autre chose, et je lui dis « Tiens, il y a Marcel qui nous fait des signes ». Et à ce moment-là, j'active chez mon interlocuteur ce dossier mental qui était là, qui préexistait, mais qui n'était pas actif. Et donc le thème correspond maintenant au dossier mental actif. Dans ce cas, quand c'est l'énoncé lui-même qui active le dossier mental de l'auditeur, et que donc, si c'est un dossier mental sur Marcel, quand Marcel n'est pas déjà le thème de la conversation, eh bien, dans ces cas-là, l'énoncé ne peut pas être considéré comme répondant à une question sur Marcel. Si l'énoncé répondait à une question sur Marcel, Marcel serait le thème et le dossier mental serait déjà activé. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir les variations de thème. On peut les voir comme, pour un même énoncé, on a plusieurs interprétations suivant l'élément qui est thématique, qui correspond à de l'information ancienne, et les éléments qui ne sont pas. Et on peut voir que ces différences d'interprétation pour un même énoncé correspondent à différentes questions à laquelle l'énoncé peut être une réponse. Donc si on se demande comment va Marcel ou que fait Marcel, ça veut dire qu'on est en train de parler de Marcel, on est en train de penser à Marcel, ça veut dire que notre dossier mental sur Marcel est déjà actif, et donc Marcel est thème. Et dans ce cas, je ne peux pas dire « il y a Marcel qui nous fait des signes », me semble-t-il, en tout cas. Il y a Marcel qui nous fait des signes, il me semble que ça marche dans des cas où la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe. Par exemple, mon interlocuteur voit que je regarde derrière, et donc la question implicite, c'est qu'est-ce qui se passe? Et je dis, il y a Marcel qui nous fait des signes. Là, j'active le dossier Marcel, j'introduis effectivement dans la conscience de mon interlocuteur cet état de choses complexes, Marcel nous faisant des signes, et le fait que mon interlocuteur ait déjà un dossier mental sur Marcel n'empêche pas qu'il s'agisse d'un énoncé thétique qui pose l'existence d'un état de choses complexe. Si l'énoncé répondait à des questions comme « quand va Marcel ?» ou « que fait Marcel ?», eh bien là, ce serait Marcel le thème. Et à ce moment-là, le propos, ce serait simplement la propriété. Effectivement, on peut très bien imaginer un cas comme ça. On discute « comment va Marcel ?» me demande mon interlocuteur, et je peux dire ben, « justement, il est là-bas, il nous fait des signes ». Là, dans cet énoncé, qui dit la même chose, ça dit que Marcel nous fait des signes, mais le thème ici, c'est Marcel. Et donc le propos, l'information qu'apporte l'énoncé, c'est simplement qu'il est là-bas et qu'il nous fait des signes. La structure thème-propos passe à l'intérieur de l'énoncé, entre le sujet et le prédicat. Disons, le sujet se trouve correspondre au thème, le prédicat correspond au propos. Alors que donc là, c'est la structure que vous voyez en haut, vous avez la structure AB correspondant sujet-prédicat, la structure du contenu, et le sujet correspond au thème, l'autre élément correspond au propos, de sorte que cette division dans la structure informationnelle, la division entre les deux composants passe à l'intérieur du contenu de l'énoncé. Mais il y a aussi des cas où le thème est externe. C'est un point important parce que dans la littérature, bizarrement, sur la distinction thème-propos, cette possibilité que le thème soit externe est souvent ignorée, alors que c'est très important. Le thème peut tout à fait ne pas correspondre à aucun des constituants du contenu de l'énoncé. Et je pense que c'est ce qu'on a dans un exemple comme il y a Marcel qui nous fait des signes. Le contenu, c'est AB, Marcel nous faisant des signes, mais ce n'est pas Marcel le thème. Ce n'est pas non plus la propriété de nous faire des signes. Non, le thème, c'est la situation, ce qui se passe, pourquoi je regarde derrière. Le thème, c'est un X extérieur. Et là, la division thème-propos ne passe pas à l'intérieur du contenu de l'énoncé. Et je pense que c'est dans ces termes qu'on peut concevoir l'idée de jugement thétique. Le jugement thétique, par opposition au jugement double, le jugement simple, si vous voulez, par opposition au jugement double, le jugement simple, c'est un jugement qui est tout d'une pièce, alors que le jugement double, il est en quelque sorte fracturé par cette division que j'ai d'abord présentée comme la division présupposée-posée. Maintenant, je dis que c'est plutôt thème-propos. Quelque chose de cet ordre-là, une structuration entre un arrière-plan et avant-plan qui passe à l'intérieur du contenu de l'énoncé et qui caractérise le jugement double. Mais le jugement thétique, c'est un jugement qui est tout d'une pièce, qui affirme une existence ou qui nie une existence, l'existence d'une chose simple ou complexe. Alors un tel énoncé a aussi un thème, se rapporte à quelque chose. On parle de quelque chose aussi quand on fait un tel énoncé ou quand on prononce un tel jugement. Mais le quelque chose, il est extérieur au contenu, de sorte que le contenu n'est pas fracturé de cette façon-là. Du moins, c'est la façon dont j'interprète cet exemple dans le cadre de la théorie BMS, donc, Brentano Marti Strawson. Donc, la structure, je dirais, c'est la structure AB+. C'est-à-dire qu'il y a ce contenu complexe, Marcel nous faisant des signes, où il y a effectivement un sujet, Marcel, un prédicat, il nous fait des signes. Et cet état de choses complexe, vous affirmez sa réalité. Et il n'y a pas cette fracturation de l'énoncé par la ligne de partage entre thème et propos, parce que le thème est externe. Donc c'est la totalité du contenu qui correspond au propos dans un cas de ce genre. Et je pense que c'est le propre de ces jugements thétiques. Et ça marche que le jugement thétique soit un jugement complexe comme là avec la structure interne AB, une structure sujet-prédicat, ou que ce soit des jugements simples comme « il pleut ». Si vous dites « il pleut », ben vous avez un contenu de jugement qui est simple. Comme on va le voir, il y a aussi un thème, mais le thème il est externe, il n'est pas un aspect du contenu. Et donc le contenu, à nouveau, n'est pas fracturé par cette division informationnelle. OK. Alors cette notion de thème ou de sujet psychologique, de ce dont on parle ou ce à quoi l'on pense, ben on voit que le thème peut être extérieur au contenu, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément donné, encodé par l'énoncé. Et de façon très générale, ces idées de ce qui est le thème, ce qui n'est pas le thème, etc., c'est des idées qui sont fondamentalement pragmatiques, contextuelles et pas purement grammaticales. Ça veut dire que selon les contextes, le même énoncé, comme par exemple l'énoncé « Jean a cassé la figure de Paul », ben, ce même énoncé peut interpréter de façon différente suivant qu'il a pour thème Jean, Paul ou une situation plus globale, ce qui se passe. À nouveau, on peut recourir à un dialogue en regardant quelle est la question implicite à laquelle l'énoncé répond. Donc, comment va Jean ? Il a cassé la figure de Paul. Là, on voit une chose intéressante, c'est que si le thème est Jean, et une question porte sur Jean, on va employer plutôt un pronom plutôt que le nom. En général, on a des phénomènes de... Le thème est la chose la moins accentuée, sur laquelle on met le moins d'accent, parce que c'est déjà donné. Mais bon, je passe là-dessus. Comment va Paul ? Jean lui a cassé la figure. À nouveau, c'est le même contenu. On dit la même chose, en un certain sens, mais la structure informationnelle n'est quand même pas la même, parce que le thème est différent. Et le thème correspond, dans un cas, au sujet, dans l'autre cas, à l'objet. Si on peut... Ouais, considérer Paul ici comme l'objet, si on prend, ça dépend comment on... Enfin, et on peut à nouveau avoir un thème externe qui ne correspond à rien de particulier dans l'énoncé, comme quoi de neuf ? Je demande des nouvelles en général. Et on me répond, Jean a cassé la figure de Paul. Et là, c'est le contenu complet, cet état de choses complexe, avec Jean, Paul, ces deux actants, cette relation de casser la figure. Et c'est tout ça qui est le propos, au moyen duquel je caractérise la situation. On me demande des nouvelles en général et je les donne de cette façon-là. Et là, le thème ne correspond pas à un constituant par rapport à un autre. Alors, bien que le thème soit une affaire avant tout pragmatique, les langues offrent toute une panoplie de ressources qui permettent d'expliciter la structure informationnelle de l'énoncé qui ne correspond pas forcément à la structure grammaticale. Donc on a vu déjà que le thème, la chose présente à l'esprit des interlocuteurs, ça peut correspondre à un constituant de l'énoncé, auquel cas c'est interne, je dis, ou ça peut être quelque chose qui est extérieur, qui ne correspond à aucun constituant en particulier. C'est des cas où on a le « x » à l'extérieur et c'est tout le contenu de l'énoncé qui est le propos qui sert à caractériser le thème. Et lorsque le thème correspond à un constituant particulier, donc lorsque le thème est interne, ben on peut indiquer cela, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'exemple de Marie, Jean l'a poussé. On peut extraposer le constituant de façon à le placer en tête de l'énoncé. Donc pour mon exemple de Jean a cassé la figure de Paul, on pourrait dire Jean, il a cassé la figure de Paul, Paul, Jean lui a cassé la figure. Comment va Jean ? Vous me demandez, je dis, ben Jean, il a cassé la figure de Paul, figure-toi. Ça marche très bien. Et là, le Jean, au début, m'indique que c'est ça le thème de l'énoncé qui suit. Alors, on a aussi, parmi les ressources, une ressource importante, c'est l'ordre des mots. Vous connaissez sans doute le film de Fellini, La Strada, où il y a des scènes... Lui, c'est Zambano, c'est un Hercule de foire qui fait des numéros de rue, où il se libère de chaînes, ou fait des choses de ce genre. Et donc, il enseigne, il essaie d'apprendre... Giulietta Massina a prononcé tout en jouant du tambour, a annoncé son numéro aux gens, et la phrase à prononcer c'est « È arrivato Zampano ». Et Zampano, c'est lui. Et là, je donne cet exemple, d'abord parce que enfin, parce que cette phrase est répétée de façon lancinante dans le film, on peut voir les extraits sur YouTube, mais en tout cas, cette formulation avec le sujet à la fin, c'est un truc qui marche seulement si le sujet n'est pas le thème. Donc si quelqu'un me demande « comment il va, Zampano ?», je ne peux pas lui dire « arrivato, Zampano », ça, c'est pas possible. Parce que c'est le thème à ce moment-là. Et effectivement, quand ils arrivent quelque part et qu'ils jouent du tambour et qu'elle dit « arrivato, Zampano », Zampano n'est absolument pas dans l'esprit des gens dont il s'agit au contraire d'introduire le numéro qui arrive. Donc, il y a l'ordre des mots peut servir à encoder le fait que quelque chose, par exemple, n'est pas le thème, et qu'il s'agit précisément d'un énoncé thétique qui introduit cet état de choses complexe, l'arrivée de Zampano, dans l'esprit des interlocuteurs. Et le linguiste Lambrecht a publié un livre intéressant en 1994 où il donne beaucoup d'exemples de ces ressources linguistiques pour rendre explicite la structure informationnelle. Et il parle de l'ordre des mots et il fait remarquer que dans une situation où il est très clair que vous avez mal au cou, vous frottez le cou, comme sur cette image, ou bien vous portez une minerve, quelque chose comme ça, et donc votre cou douloureux votre cou en tout cas présent à l'esprit des interlocuteurs. Dans ce cas, vous diriez, si vous voulez dire que vous avez mal au cou, vous dites « il collo mi fa male », avec le cou étant sujet, et c'est un sujet thématique, mais la forme avec le sujet à la fin, correspondant à Alberto Zampano, mi fa male il collo, ça marche seulement si votre cou n'est pas, votre cou douloureux ou quoi que ce soit, n'est pas déjà présent dans l'esprit de votre interlocuteur. Donc, si vous avez vu en train de gémir en vous tenant le cou, vous ne pouvez pas dire ça. Vous devez dire il collo mi fa male. Mais si on vous demande comment ça va, à ce moment-là, vous pouvez dire « mi fa male il collo », j'ai mal au cou. Et donc, c'est une distinction, c'est typiquement ce genre de distinction dont parle Kuroda à propos du japonais. Donc, lui dit qu'en japonais, on a des particules « ga » et « wa » qui permettent de marquer ces deux cas de figure et qu'on utiliserait dans un cas de ce genre. Alors, en anglais, on retourne à la prosodie. J'ai parlé au début du fait que le thème est l'élément qui n'est pas accentué. Donc, si vous accentuez, vous avez un pic intonatif, si vous dites my neck hurts, avec l'accent sur le cou, comme c'est accentué, ça veut dire là aussi que c'est pas thématique, que le cou il n'était pas déjà présent dans l'esprit des interlocuteurs, parce que s'il était déjà présent, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit accentué. Ce qu'on accentue, c'est au contraire l'élément rhématique. Et donc, ces deux énoncés-là, avec le placement de l'accent différent, est censé correspondre plus ou moins à la même distinction. Et à chaque fois, la distinction, c'est entre le caractère thématique ou non thématique du sujet d'un énoncé complexe. Quand ce n'est pas thématique, en général, le thème il est externe, et à ce moment-là, c'est un énoncé thétique. Et donc, suivant le placement de l'accent, vous aurez un énoncé catégorique, un jugement double au sens de Brentano Marti, ou bien un jugement thétique. Et en français, je pense qu'un contraste comme celui-là, si vous dites « il y a mon cou qui me fait mal », à nouveau, le « il y a » existentiel indique que c'est un jugement thétique qui introduit cet état de choses, « mon cou qui me fait mal », qui n'était pas avant, fût-ce partiellement à travers simplement une pensée du cou, dans l'esprit des interlocuteurs. C'est pas simplement le fait qu'il me fait mal qu'on introduit dans l'esprit des interlocuteurs, c'est aussi la pensée de mon cou. Et c'est différent si je dis mon cou il me fait mal, parce que là je peux avoir une interrogation, un regard interrogatif parce que je me tiens le cou, et je dis mon cou il me fait mal. Enfin, mon cou me fait mal tout simplement, et on a à ce moment-là le coup qui est thématique. Et à nouveau, quand le sujet est thématique, la distinction entre ces deux composants, le thème et le propos, passe à l'intérieur même de l'énoncé et coïncide éventuellement avec la structure sujet-prédicat de l'énoncé. À ceci près que cette division informationnelle peut passer, fracturer le contenu de l'énoncé sans que le thème soit le sujet, puisque le thème peut être un autre constituant de l'énoncé. Mais les cas qui m'intéressent, ce sont les cas où le thème il est externe au contenu, où on a le contenu qui est tout d'une pièce, qui correspond au propos, à l'information nouvelle en quelque sorte, et le thème, ce qui nous intéresse, ce dont on parle, ce à quoi on pense, c'est quelque chose qui n'est pas encodé dans l'énoncé particulièrement. Alors, puisque c'est la structure informationnelle qui détermine in fine le caractère thétique ou catégorique au sens de jugement double du jugement ou de l'énoncé, et que, on l'a vu, la structure informationnelle c'est largement tributaire du contexte, de la pragmatique, des questions qu'on se pose au moment où on parle, etc., ben, il s'ensuit que très souvent un même énoncé pourra avoir des lectures différentes, et c'est ce que beaucoup des exemples que j'ai donnés montrent. Un même énoncé pourra interpréter de différentes façons suivant la question à laquelle on considère qu'il répond. Et donc la structure, cette espèce de structure dont parlent Brentano et Marty, la structure du jugement double, la structure thétique, etc., différentes structures pourront se trouver instanciées en fonction du contexte, en fonction des questions que se posent les interlocuteurs. Donc, c'est le cas, évidemment, pour des énoncés comme « Marcel nous fait des signes ». J'ai donné deux cas, où, un cas où c'est Marcel le sujet, ça répond à une question « Que fait Marcel ?» et un cas où, au contraire, on n'est pas du tout en train de penser à Marcel, et on pourrait dire « Il y a Marcel qui nous fait des signes » parce que c'est la totalité du contenu qui est le propos et qui sert à caractériser un thème qui est simplement « Ce qui se passe ». Mais cette possibilité d'avoir plus des variations, disons, d'interprétation en fonction de ce qui est le thème, de ce dont on parle, ça marche aussi pour des énoncés qui ne sont pas des énoncés singuliers, portant sur un objet particulier et lui attribuant une propriété. Et c'est quelque chose que Marty lui-même a remarqué. La possibilité de réinterpréter certains énoncés censés être des énoncés existentiels thétiques, d'après les analyses de Brentano, de les réinterpréter comme jugement double. Et donc si on prend une affirmative, une universelle affirmative comme « tous les chevaux ont une crinière », dans l'analyse de Brentano, dire que tous les chevaux ont une crinière, c'est dire, c'est la même chose que tout cheval a une crinière, c'est dire qu'il n'y a pas de cheval sans crinière, ça revient à nier l'existence d'un complexe cheval sans crinière. C'est ça l'analyse de Brentano, c'est un jugement thétique qui affirme l'existence d'un état de choses complexe, ou qui le nie, pardon, dans ce cas. Les universels sont des existentiels négatifs pour Brentano. Donc, pas de cheval sans crinière. Ça nie l'existence d'un cheval qui n'aurait pas de crinière. Mais ce que dit Marty, c'est que on n'est pas forcé de comprendre comme ça un énoncé comme « tous les chevaux ont une crinière ». Et on le voit si on change le prédicat. Si au lieu de dire « tous les chevaux ont une crinière », on dit « tous les chevaux sont rentrés ». Et supposons que... Parce que les chevaux, c'est un... Cette description possède le trait défini, à travers l'article défini « les ». Alors les chevaux, ça peut renvoyer à tous les chevaux qui existent, la totalité des chevaux. L'espèce, comme quand on traduit par « tout cheval à une crinière », c'est à ce moment-là équivalent. Mais on peut aussi, par « les chevaux », faire référence à un ensemble de chevaux très particuliers, nos chevaux par exemple. On peut être justement en train de se demander ce qui se passe avec les chevaux. Et je peux rassurer mon interlocuteur en disant « t'inquiète pas, tous les chevaux sont rentrés ». Et dans ce cas-là, je présuppose une connaissance préalable qu'a mon interlocuteur de nos chevaux, de ce petit ensemble de chevaux, et non seulement une connaissance préalable, mais qu'on est en train d'y penser. Donc il a nos chevaux en tête, il s'interroge sur ce qui se passe pour eux, et je le rassure en lui disant qu'ils sont tous rentrés. Et dans ce cas-là, c'est un jugement double, avec un thème, effectivement, qui est présupposé, qui est prédonné, comme dit Séchuet. Et le propos, c'est simplement la propriété d'être rentré, qu'on attribue aux chevaux qui sont dans l'esprit déjà de l'interlocuteur. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, je voudrais... revenir à ce qui était le thème central de cette discussion de Brentano c'est sa critique de la théorie traditionnelle du jugement, la théorie que j'appelle aristotélicienne, selon laquelle le jugement, un jugement vrai ou faux, implique la synthèse prédicative, le fait qu'il y ait un sujet, un prédicat, quelque chose dont on parle et quelque chose qu'on en dit. Selon Aristote, on ne peut pas avoir du vrai et du faux si on n'a pas ces éléments-là. Et Brentano donne comme contre-exemple les jugements à un seul terme comme il pleut, où on n'a pas la synthèse prédicative. Et Strawson fait pareil, il a aussi cette idée qu'il y a un type de jugement qui est vrai ou faux, mais où il n'y a pas la synthèse prédicative, où il n'y a pas ces deux éléments. Alors quand on parle de jugement où il n'y a pas la synthèse prédicative, où il n'y a pas sujet et prédicat, comme ces jugements éthiques à un seul terme, dont parlent à la fois Brentano et Strawson, la question se pose de savoir de quelle structure sujet-prédicat on parle, parce que là, on vient de voir en fait que il y a différentes choses. Il y a un plan grammatical, il y a un plan informationnel, il y a plusieurs plans à considérer. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Hornby, qui dit que il y a une notion grammaticale, et au sens grammatical, d'ailleurs, on peut dire que dans « il pleut », il y a un sujet grammatical superficiel, qui est le « il ». Alors, évidemment, c'est un « il » impersonnel, qui est explétif, ce n'est pas un vrai sujet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que ce n'est pas un vrai sujet? Je pense que ça me prendrait trop de temps de discuter de ça, mais c'est certain que le « il » de « il pleut » ne correspond pas à l'agent de l'action, parce que quand on dit « il pleut », il n'y a pas d'agent. Il y a un pur événement. C'est un pur événement où non seulement il n'y a pas d'agent, mais il n'y a même pas d'actant au sens de Ténière. Les actants, c'est ce que les logiciens appellent les arguments du prédicat. Si vous avez « Jean mange », »,« manger », c'est un prédicat à un argument. Il y a une place vide pour, en l'occurrence ici, le sujet, la personne qui mange. Et si vous dites « Jean embrasse Marie », il y a deux places vides, il y a deux arguments. « Jean, Marie », c'est une relation entre eux. Si vous dites « Jean donne le livre à Marie », ben « donner », c'est une relation, il y a trois termes. Là. Il y a la personne qui donne, ce qui est donné et à qui on donne. Mais si on regarde « pleuvoir », il n'y a aucun actant dans « pleuvoir ». Il n'y a pas une scène complexe avec des participants, il y a juste la pluie. Donc, beaucoup de gens disent que le prédicat ici, il est zéro-adique. Il n'est ni monadique, ni diadique, ni triadique, il est zéro-adique. Mais d'un autre côté, à partir du moment où on fait intervenir la notion de structure informationnelle, la situation dialectique me semble changer du tout au tout, parce que ce n'est plus si évident que la théorie traditionnelle du jugement comme synthèse prédicative, synthèse de ces deux éléments, soit réfutée par l'existence de jugement éthique à un seul terme. Pourquoi ce n'est pas forcément réfuté? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure en passant, même quand vous avez un jugement éthique à un seul terme comme « il pleut », il y a un thème. Et ce thème, en général, si je vous dis « il pleut », le plus souvent, et pas toujours, c'est la situation où nous nous trouvons. C'est la situation, j'appelle ça la situation égocentrique du sujet. Le sujet dit « il pleut », il est dans une certaine situation. Et ce qu'il caractérise en disant « il pleut », c'est la situation où il est. Et la situation où il est, c'est le thème, au sens, dans un travail sur tu parles beaucoup de cette idée de thème, cette linguiste introduit l'idée de thème situationnel, de stage topic, et elle dit que la situation où l'on est toujours un thème possible, parce que c'est toujours quelque chose qui est plus ou moins présent à l'esprit, et qui peut toujours servir de thème. Donc si vous dites « il pleut », le thème, c'est la situation où vous vous trouvez. Alors, ça n'est pas la seule possibilité pour « il pleut ». Vous pouvez très bien dire « il pleut » et ne pas parler de la situation où vous vous trouvez, en particulier si votre « il pleut » se trouve dans un discours où il a été fait mention d'un lieu précédemment, comme ici. Là, ce n'est pas le moment d'aller à Palo Alto. En ce moment, il pleut tout le temps. Là, je dis « il pleut tout le temps ». De quel lieu je parle? Je ne parle pas du lieu où je me trouve. Je parle de Palo Alto. Donc là, il y a un renvoi en quelque sorte anaphorique. Le thème est fourni par le discours précédent. Mais le point important, et c'est à quoi je veux en venir, c'est qu'il y a forcément un thème. Et ça, c'est un point sur lequel le philosophe John Perry, dans un article très, très bien connu, a mis l'accent. Il dit que « il pleut », ça n'est ni vrai ni faux, tant que vous n'avez pas déterminé le lieu dont on parle. Il pleut tout court, ce n'est pas vrai ou faux, parce qu'il pleut ici, il pleut pas là, ça dépend du lieu. C'est pas en soi, ce n'est pas vrai ou faux de façon absolue. C'est seulement relativement à un lieu donné qu'on peut dire c'est vrai ou faux. Donc, en ce moment, ici, il pleut ou il ne pleut pas. À un autre endroit, c'est peut-être différent. Donc quand vous dites il pleut, vous devez, d'une façon ou d'une autre, faire comprendre à votre interlocuteur, s'il s'agit de communication, de quel lieu vous parlez. Et donc ce que dit Perry, c'est que il y a une forme de référence à un lieu qui est obligatoire, sans quoi on n'aurait pas réussi à dire, à porter un jugement complet, vrai ou faux. Il y a forcément une référence identifiante à un lieu qui peut être tacite, qui peut être silencieuse. Ce n'est pas forcé de passer par les mots, mais on doit comprendre de quoi l'on parle. Donc il y a toujours ce lieu qui est sous-entendu, et peut-être que ça veut dire qu'après tout, et c'est la conclusion vers laquelle semble se diriger Perry, que pleuvoir, après tout, n'est pas un prédicat zéroadique, mais un prédicat monadique. Pleuvoir a besoin d'un lieu. De même que manger, le prédicat manger, a besoin d'un sujet, mange, c'est... Enfin, le mange qui n'est pas un impératif, mais un déclaratif, c'est ni vrai ni faux, comme dirait Aristote. J'en mange, oui, ça c'est vrai ou faux, parce qu'on en a besoin que de compléter, pour avoir une proposition complète, on a besoin de compléter avec l'argument, le sujet. Et bien de la même façon, quand vous dites il pleut, vous avez besoin de compléter par un lieu, sans quoi vous n'avez pas quelque chose de vrai ou faux. Donc ça c'est ce que dit Perry. Et il pense aussi que ce lieu, il est dans bien des cas sous-entendu, et c'est comme si l'énoncé était elliptique. Quand vous dites « ce n'est pas le moment d'aller à Palo Alto, en ce moment il pleut tout le temps », ça revient à dire « en ce moment il pleut tout le temps à Palo Alto ». De même que quand vous dites « il pleut », parlant de votre situation où vous êtes, c'est équivalent à dire « il pleut ici ». Alors évidemment, ce n'est pas forcément de l'ellipse au sens linguistique. Mais quand même, Perry dit que si on regarde vraiment le contenu complet du jugement, on voit que ce jugement se rapporte à un lieu, le jugement « il pleut », et qu'il est possible soit d'articuler le lieu explicitement, « il pleut ici »,« il pleut à Paris », »,« il pleut à Palo Alto », soit de laisser le lieu inarticulé, comme il dit, mais néanmoins, dans le contenu, il y a le lieu. De sorte que, selon lui, il y a véritablement une prédication dans « il pleut ». Je prédique d'un certain lieu la propriété qu'il pleut dans ce lieu. Et donc, ce n'est pas clair, bien que ce soit grammaticalement quelque chose de... Pas vraiment grammaticalement, d'ailleurs, mais à un certain niveau, on a l'impression que c'est un jugement à un seul terme, mais ce que nous dit Perry semble aller dans le sens du fait qu'on pourrait contester cette idée-là et dire qu'il y a quand même ici une articulation de type sujet-prédicat. Alors, évidemment, on peut très bien ne pas aller dans ce sens-là, résister à ça, et dire que le lieu, il ne fait pas partie du contenu, mais c'est le thème, et le thème peut très bien être externe au contenu. Et ça, c'est l'idée justement d'un jugement thétique dont le contenu global se rapporte à quelque chose qui est extérieur au contenu et que le jugement revient à caractériser. Et ce que ça nous montre, c'est que je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut effectivement distinguer le cas où on a dans le contenu du jugement cette structure sujet-prédicat complexe et le cas où on a simplement autre chose qui est le contenu du jugement, qui est le propos, qui se rapporte à un thème qui est extérieur au contenu. Ce n'est pas la même chose. Et néanmoins, la relation sujet-prédicat, interne au contenu, et la relation entre le thème et le propos se ressemblent, parce que le propos, ça nous sert à caractériser le thème. Qu'est-ce qui se passe ? Jean a cassé la figure de Paul. Je caractérise une certaine situation comme étant une situation où Jean a cassé la figure de Paul. En général, cette idée de thème et de propos ressemble à la prédication, à la structuration sujet-prédicat. Il y a des cas, évidemment, il y a tous les cas où ça coïncide, tous les cas où le sujet se trouve être le thème et où le prédicat correspond au propos. Et selon Brentano, c'était cette structure grammaticale sujet-prédicat et là, pour encoder, initialement au moins, cette structure psychologique. Mais il y a beaucoup de cas où c'est différent, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a le propos, qui éventuellement, c'est la totalité du contenu de l'énoncé qui est le propos, ça se rapporte à un thème qui, lui, ne correspond à rien dans le contenu de l'énoncé, mais qui est un thème situationnel. Et dans ces cas-là aussi, on parle du thème, c'est de lui qu'on parle, c'est à lui qu'on pense, et on le caractérise d'une certaine façon. Le propos sert en quelque sorte à prédiquer. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pour ça, je pense qu'on devrait parler peut-être de proto-prédication. Quand je dis « il pleut », c'est vrai que je caractérise une situation. Les deux cas de figure sont le cas où le thème c'est le sujet, le propos c'est le prédicat, et l'autre cas qui m'intéresse, le cas des jugements éthiques, le thème est externe, c'est le contenu global qui est le propos, et je pense que dans cette catégorie, il y a à la fois les cas comme il pleut qui sont avec un jugement simple, et les cas comme il y a Marcel qui nous fait des signes. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer aussi des cas que mentionne Séchuet, qui sont le cas d'une certaine phase dans l'apprentissage du langage chez les enfants. C'est la phase des phrases à un mot, comme on dit, les monorèmes, il appelle ça. Les phrases à un mot, c'est-à-dire que l'enfant a un répertoire, un lexique, avec des équivalents de mots comme chat, pluie, bébé, prononcés à la façon enfantine, disons. Et l'enfant produit des énoncés qui se réduisent à un mot. Il dit chat, pluie, bébé, etc. Et la façon, alors il y a plusieurs façons d'analyser ça, mais la façon dont je crois Séchuet analyse, en tout cas la bonne façon, il me semble, c'est de considérer effectivement qu'il s'agit de d'énoncés complets, de jugements, si vous voulez, qui se rapportent à la situation où se trouve le bébé. Tous les jugements que porte le bébé, dans ces cas-là, sont des jugements qui se rapportent à la situation où il est. C'est un mode égocentrique. Un type de discours dont le mode est égocentrique se rapporte toujours à la situation où l'on est. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire qu'il y a une sorte de structure proto-prédicative puisque le bébé caractérise la situation où il y est comme une situation où il y a du chat, où il y a un chat. Donc, il y a un chat qui apparaît et le bébé dit chat. Ça revient à caractériser la situation comme maintenant une situation avec du chat. C'est vraiment le feature placing de Strawson. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de structure proto-prédicative où on attribue une propriété à quelque chose qui est la situation où l'on est. Mais cette structure n'est pas du tout interne au contenu de l'énoncé. Là, le contenu, il est complètement simple, c'est juste la propriété chat. Je parlerai la prochaine fois de chez Strawson, il y a ce qu'il appelle le jeu de la nomination, quand il discute ce mode de discours. Et le jeu de la nomination, c'est exactement quelque chose qui fonctionne exactement comme ce stade du développement des enfants. Donc on a beaucoup d'éléments communs entre ce couple thème-propos et le couple sujet-prédicat. Et dans la mesure où il y a tant en commun, même si ce sont deux choses éventuellement différentes, ben on peut accepter une variante, disons, affaiblie peut-être, de l'idée aristotélicienne. On peut dire qu'effectivement, pour qu'il y ait un jugement vrai ou faux, il faut qu'il y ait deux choses. Et même dans des cas comme les monorèmes des enfants, ou dans le cas dénoncé comme « il pleut », où le contenu est quelque chose de simple, où il n'y a pas la structure sujet-prédicat, ce sont des jugements à un seul terme, mais néanmoins, il y a quelque part un deuxième terme, qui n'est pas le sujet, parce que ce n'est pas quelque chose qui est articulé dans le contenu. C'est quelque chose qui est externe, mais c'est quelque chose à quoi l'on pense ou dont on parle. Et dans la mesure où il y a cette autre chose, on pourrait dire, oui, c'est vrai, il n'y a pas de jugement sans cette synthèse. Mais sauf que ce n'est pas la synthèse prédicative. Ce n'est pas, encore une fois, cette structuration du contenu en deux éléments, puisqu'on peut avoir très bien des contenus extrêmement simples. Mais c'est autre chose, c'est cette structure thème-propos qui va bien au-delà de la structure sujet-prédicat au niveau du contenu. Donc, on pourrait parler, sinon d'une synthèse prédicative comme étant à la base de tout jugement vrai ou faux, on pourrait peut-être admettre qu'il y a au moins une synthèse proto-prédicative et que quelque chose de complètement simple avec un seul terme, si on fait abstraction du fait qu'on parle du contenu ou de façon plus générale de la structure informationnelle, s'il y avait un seul terme, on n'aurait pas cette possibilité de quelque chose de vrai ou faux. D'ailleurs, de façon générale, on admet que pour avoir quelque chose, pour avoir une vérité, il faut deux choses. Il ne suffit pas d'avoir une seule chose. Donc peut-être qu'on peut aller un peu dans le sens de la position d'Aristote, à partir du moment où on introduit cette notion de structure informationnelle, qui n'est pas la même chose, encore une fois, que la structure grammaticale, ni même que la structure logique. Dans la prochaine séance, j'émettrai en fait des réserves vis-à-vis de cette idée, et je soutiendrai que dans un certain nombre de cas fondamentaux, la notion qui est pertinente, c'est pas tellement. C'est la notion que j'ai évoquée quand j'ai parlé de cet exemple des bébés. J'ai dit que le mode de fonctionnement des bébés, à ce stade de leur développement, c'est le mode égocentrique. Tout ce qu'ils disent, je ne sais pas si on peut dire tout ce qu'ils pensent, ça j'en sais rien, tout ce qu'ils disent se rapporte à la situation où ils sont ici et maintenant. Et donc, on peut considérer qu'il y a un mode de discours qui fixe le thème, en quelque sorte, de façon plus ou moins intangible, et que donc ce deuxième élément, il est là, en quelque sorte, il est donné par le mode du discours, mais pas par le contenu. Le contenu, lui, c'est quelque chose de tout simple, comme ici. C'est un contenu où il n'y a aucune structuration. Et cette notion de mode est importante parce que je pense que si on arrête de parler du langage, mais pour regarder ce qui se passe dans beaucoup d'autres cas, par exemple dans la perception, je vous parlerai de ça la prochaine fois, dans la perception, tout ce qu'on perçoit, c'est ce qu'il y a autour de nous. Je fais abstraction pour l'instant à l'usage d'instruments particuliers comme les télescopes ou les télévisions, les choses comme ça, pour simplifier les choses. La perception, disons, naturelle, c'est forcément la perception de ce qu'il y a autour de nous. Donc, quand nous percevons quelque chose, il y a le contenu, ce que nous percevons, c'est le contenu de la perception. Ce contenu, on l'évalue toujours par rapport à la situation où nous sommes. Parce que c'est le mode perceptif qui veut ça. Donc, on est le deuxième élément, en quelque sorte, ce à quoi se rapporte notre perception, le fait que ça se rapporte à la situation où nous sommes maintenant, c'est pas quelque chose qui est dans le contenu. C'est quelque chose qui est imposé par ce que c'est que percevoir. Et je pense qu'on peut dire la même chose dans une large mesure des cas qu'on a considérés. De sorte que si on va dans cette direction-là en exploitant cette distinction mode-contenu que j'exposerai la prochaine fois, je pense qu'on peut résister à la pression de la théorie que j'ai appelée aristotélicienne, affaiblie grâce à l'idée de structure informationnelle. Mais bon, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on va avoir donc le séminaire avec Marie Guillot qui est présente, qui va nous parler donc à 11h30, et ben, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.